décryptualité. Le podcast qui décrypte l'actualité des libertés numériques. Semaine 7, salut Manu.
Salut Christian.
Salut Luc.
Sommaire.
On a 6 jolis articles cette semaine.
Le Telegram, logiciel libre des participants avides de connaissances.
Donc ça discute de réunions, de présentations, d'associations qui abordent les logiciels libres et qui montrent un peu à tout le monde comment ça fonctionne. Plutôt sympa, il y a des install parties notamment. Allez jeter un œil parce que c'est toujours sympa.
Partout en France. ZDNet France, non, vous ne pouvez pas reprendre du code open source. Par Stephen G. Vaughan Nichols.
Donc c'est une traduction d'un article anglais qui parle d'une problématique qu'on s'était posée. Est-ce qu'un auteur, un programmeur peut dire a posteriori « Non, ce code source, vous ne pouvez plus l'utiliser, je vous en enlève l'autorisation ». Eh bien, vraisemblablement non. En tout cas, c'est les analyses qui sont mises en avant dans l'article. C'était une problématique qui était un peu gênante.
Attention, parce que c'est un article traduit, donc rien ne dit que cette analyse est valable dans notre droit.
Exactement, à creuser, toujours.
Développé.com, directive copyright, la version finale est enfin prête. L'EFF explique comment les entreprises US pourraient en profiter par Stéphane Lecalme.
Donc ça parle des articles fameux que l'on n'aime pas, les articles 11 et 13 du droit d'auteur qui est en train de se mettre en place en ce moment. Donc il y a des hauts et des bas sur cette directive.
Ouais, on
a cru qu'elle
était mort. Hein.
Ouais, mais non, c'est relancé par la France et l'Allemagne qui d'un même pas ont décidé d'empirer le système et d'attaquer tout Internet en bloquant beaucoup de choses liées au droit d'auteur, à cause du droit d'auteur, pour le droit d'auteur. Donc bah, on regarde ce qui se passe, il y a plein d'articles sur le sujet, plein d'articles secondaires, vous pouvez aller jeter un œil et on attend de voir les résultats de ce genre de délibération.
Numérama, UFC que choisir fait condamner Google sur la collecte et l'utilisation des données personnelles, par Maxime Claudel.
Ah, ça c'est pas mal, les grosses entreprises se font condamner parce qu'elles font des choses pas très sympas du point de vue de la vie privée. Donc il y a des règles maintenant, le RGPD notamment. Un outil fort, et on peut voir, donc ça c'est des articles secondaires, que le RGPD est aussi utilisé dans d'autres pays européens pour faire bouger, notamment Microsoft, sur sa suite Office.
Silicone, open source, Linux domine le top 5 des compétences les plus prisées, par Ariane Becky.
Alors ça fait plaisir, hein, donc les développeurs qui font du logiciel libre sont très appréciés en entreprise, on en manque, on en recherche, il en faut, donc les écoles écoutez, les universités entendez. Il faut former des informaticiens qui font du logiciel libre.
Développé.com, un hacker lance Freedom EV, un projet open source qui apporte de nouvelles fonctionnalités aux voitures Tesla, par Bill Fassinou.
Alors je crois qu'on peut appeler ça un mod, un module, une modification. En gros, les voitures Tesla, les voitures électriques, qui embarquent tout un système d'exploitation intégré, permet de contrôler plein de choses dans la voiture électrique, eh bien ce développeur, ce hacker, il est en train de bidouiller sa voiture électrique pour y installer des nouvelles fonctionnalités, notamment des fonctionnalités liées à la vie privée. Il ne veut pas que sa voiture enregistre exactement partout où il va, et notamment, bah, il a fait des blocages qui vont permettre de contrôler ce qui se passe de ce point de vue-là. On attendra voir ce que fait Tesla. Est-ce que Tesla va apprécier ces modifications?
Sachant qu'il y a de plus en plus d'informatique dans les voitures aujourd'hui et que c'est de plus en plus fermé, ça serait un beau signe, une belle voie à suivre.
Bon, alors, pour le sujet de la semaine, moi, je sais pas trop, en fait, parce que tout est faux.
Tout est faux. Bah, comment ça, tout est faux?
Bah, alors
Bah, oui, alors, bon, en fait, mes angoisses sont parties d'un groupe. J'avais lu ça il y a quelques mois, j'avais trouvé ça assez rigolo. C'est un groupe qui s'appelle Threat In, du nom Threat In. Manu, c'est toi qui...
Threat In.
Voilà.
Ah, c'est du métal.
Voilà, d'une sorte de rock metal, tout ça, du nom du leader charismatique du groupe, qui s'appelle Jared.
Threat In.
Et donc, ce groupe, c'est une histoire assez fabuleuse où le gars et sa femme ont fait, pour commencer, un album. Le type, il a fait l'album avec des chansons.
Ça paraît être un bon démarrage. Hein.
Voilà, c'est pas mal pour commencer à faire de la musique. Et dans le clip, on le voit à jouer de la guitare et de la batterie. C'est un petit peu cheap, mais on voit quand même des trucs avec des noms de villes. Il est tourné dans plein d'endroits, etc. Il y a de la foule, hein. Il a joué devant plein de gens. Le nom de la chanson, c'est quoi? Toi, Manu, je sais que t'es fan.
Living is dying.
Voilà, donc on rigole un petit peu.
Vivre, c'est mourir. Oui, non, la profondeur de la parole. C'est lui qui est chanteur.
Voilà, il chante.
Alors, il est relativement jeune, quand même.
À cheveux longs, bien sûr.
Donc bon, ils ont fait ça et ils ont organisé une tournée. Et pour ça, ils ont fait plusieurs trucs. C'est qu'ils ont commencé par faire le site web d'un faux label qui prétend exister depuis super longtemps et avoir plein de groupes qu'ils ont inventés et le leur.
D'accord.
Ils ont inventé une fausse agence de promotion,
ouais,
avec un site web correspondant.
Ça semble pas mal.
Ils ont inventé et créé le site web d'un faux tourneur. Ensuite, ils ont acheté des followers sur Twitter, je suppose sur Facebook, etc.
Jusque-là, situation tout à fait classique.
Mais c'est sûr que ça fait pas plaisir. Mais le groupe, il a fallu qu'il le constitue à un moment donné.
Oui, alors il a embauché des musiciens en leur expliquant que ses anciens musiciens avaient tous quitté le groupe précipitamment.
Bon, ça arrive.
Et
hein,
voilà.
Ça,
et il a monté une tournée, notamment en Grande-Bretagne, en allant solliciter avec tout ce bagage-là des salles de concert. Bah, il y a en Angleterre plusieurs salles, hein, et même dans d'autres pays d'Europe, qui ont dit « bah, ça a l'air pas mal, il a des gens derrière lui, il y a des gens qui ont écouté la musique et qui ont trouvé ça suffisamment crédible pour dire « ok, c'est bon, tu vas remplir ma salle ». Et lui parle de voilà, 1500 personnes, quoi, donc pas des petites salles minuscules.
Ça se voit au bout d'un moment si la salle va se remplir ou
mais
pas.
Mais il a vendu des tickets, il a vendu je sais plus combien, 250, 300 tickets.
Qu'il a acheté lui-même.
Alors,
hein.
Alors c'est qu'il les a vendus à lui-même, il a acheté lui-même ses tickets de pré-vente, et le jour du concert... Personne.
Mince.
Il avait oublié que c'est bien joli de faire illusion avec des réseaux sociaux, avec tout est faux, mais qu'il y a un moment, il faut que le public, si on veut qu'il vienne, il faut quand même qu'il entende la musique.
Il n'a pas été jusqu'au bout de sa démarche, il n'a pas acheté les spectateurs.
C'est ça le problème. Ce que je trouve complètement fou dans cette histoire, c'est que la somme de travail, la somme de pognon investi, quand même mis beaucoup d'argent dans le truc, la somme de talent, parce que le type, il arrive quand même à faire de la musique qui arrive à convaincre quelqu'un, il arrive quand même à faire des sites web qui arrivent à convaincre des gens.
Il a réussi à recruter du monde. T'es d'accord pour venir bosser avec lui ?
Il les a un petit peu entubés quand même, parce que quand ils sont arrivés, ils ont découvert qu'ils seraient payés rien, en fait, puisque c'était $300 pour la tournée, ce qui est rien du tout, et qu'en plus, ça devait payer leur nourriture. Donc, il les a quand même entubés là-dessus. Mais ce type et sa femme, ils ont quand même du talent, ils ont réussi à faire plein de choses, mais pour monter une espèce de ballon de baudruche qui s'est instantanément volatilisé, quoi.
Et on dirait que là, t'es en train de parler d'autre chose que d'un groupe de musique. J'ai l'impression que ça pourrait s'appliquer à tellement d'autres domaines. Le marketing...
Les métriques sur Internet, des choses comme ça. Parce qu'ils n'ont fait qu'utiliser les moyens à leur disposition qui sont utilisés par plein d'autres domaines.
Alors effectivement, le fait d'acheter des followers, le fait d'acheter des amis sur Facebook et ce genre de choses, il y a plein de gens qui le font. Il y a des groupes hein, partout qui ont fait ça. Il y a des politiciens. Il y a tout le monde le fait.
Alors est-ce que tout est faux ?
Bah, moi, je pense que oui. Enfin, là, dans cet exemple-là, tout est faux.
Oui, bah alors, à mon avis... Il y a des endroits où toi-même tu traînes, qui se traînent pourtant des réputations de fausseté. Je sais que Reddit, qui est un de tes sites préférés, ils se sont montés en mettant en place plein de faux comptes. Une fausse activité, initialement.
Reddit, c'est une sorte de gros forum, t'en parles de plus en plus. Et effectivement, au démarrage, c'est toi Manu qui me l'a appris.
Eh bien, c'était que de la baudruche, c'était que du marketing. Les mecs, ils ont créé une fausse activité sur leur site pour initier la pompe.
Ils faisaient comme s'il y avait des gens voilà, qui publiaient des choses... pour montrer qu'il se passait quelque chose sur leur site et que c'était bien de s'inscrire.
Alors pour le coup, ça a marché.
Mais de fait, il se passait effectivement quelque chose sur leur site. Alors, ils ne sont pas contentés de dire on a 1 million de personnes qui font rien. C'est qu'ils ont eu des gars qui ont fait des trucs.
Mais je crois comprendre qu'encore aujourd'hui, Reddit a fait parler de lui. On a vu passer des articles.
Alors effectivement, il y a un article sur développé.com dont le titre est « Tout est faux, l'ancien PDG de Reddit confirme que les métriques du trafic Internet ne sont pas réelles et explique en quoi, dans une belle accroche,
l'auteur de l'article,
Stéphane Le Calme.
Parce que là, on est en train de tout lui piquer quand même, presque.
Oui, effectivement. Une accroche vraiment forte, et en fait, le contenu est aussi fort que l'accroche.
Donc, la directrice...
La PDG, dite.
Ex-PDG. Ouais.
Hélène Pao dit carrément, alors, je la cite, « C'est vrai, tout est faux. De plus, les comptes d'utilisateurs mobiles sont factices. Personne n'a compris comment compter les utilisateurs mobiles déconnectés, comme je l'ai appris chez Reddit. Chaque fois que quelqu'un change d'antenne cellulaire, cela ressemble à un autre utilisateur et gonfle les statistiques d'utilisateurs de l'entreprise. » C'est hallucinant.
Donc en gros, si vous êtes en train de consulter Reddit depuis un TGV, vous allez être compté peut-être des centaines de fois, parce qu'au moment où ça bouge, vous changez de cellule, bien Reddit vous compte comme un nouveau visiteur.
Voilà, ça c'est super intéressant quand on sait qu'il y a des tas de gens qui disent « Oh, aujourd'hui les gens utilisent le mobile pour aller sur Internet, l'ordinateur fixe c'est mort bah, », avec ce genre d'infos, on se dit que les chiffres sont peut-être complètement bidons.
Et il semblerait qu'effectivement, la plupart des statistiques fournies et utilisées repose comme ça sur des mesures, alors pas forcément trafiquées, mais mensongères, mal étayées, et que les professionnels du domaine le savent parfaitement, mais s'en servent quand même pour vendre, pour faire du buzz.
Vendre de la pub. Alors on sait également que, c'est cité dans l'article, qu'il y a des estimations qui disent qu'au moins 40% du trafic sur Internet, ce sont des bots, c'est-à-dire ce sont des ordinateurs qui communiquent, qui envoient des machins, dans tous les sens. Quand on sait que par ailleurs, bah, y a une grosse partie du trafic, c'est de la pub.
Ouais. La grande majorité des emails sont des spams.
Et qui envoie les spams ?
Des robots.
Des robots. Et donc, on construit des robots pour se faire passer pour des humains. Et du coup... On a des followers, on a des inscrits sur Instagram, sur Facebook. Il y a combien de comptes sur Facebook aujourd'hui ?
Je crois que c'est de l'ordre de 2 milliards. On estime que la moitié sont bidons. Enfin, c'est certains chiffres qui sont avancés. Mais comme la base est bidon et comment on sait que le chiffre lui-même est bidon, c'est pour ça que je dis que tout est faux.
Alors ici, dans l'article aussi, le cas du nombre de vues de vidéos qui était faramineux, qui faisait payer très cher le visionnage des vidéos, mais en fait, qui ne disait pas que les vidéos étaient considérées vues s'il y avait 3 secondes de visionnage qui étaient effectifs, et non pas les 3 minutes ou les 10 minutes qu'il y avait derrière.
Il y avait ça et les publicités avant. Puisque pour ceux qui ont le malheur de ne pas avoir de bloqueur de publicité, quand il y a une pub sur YouTube, passez l'annonce au bout de quelques secondes. Et je crois qu'ils avaient également un peu pipoté, en tout cas on les a accusés d'avoir pipoté sur ce nombre de vidéos de pubs vues en entier.
Les annonceurs s'étaient plaints de Google notamment, parce que Google leur faisait payer des publicités très chères. Les annonceurs avaient découvert que le nombre de vues, le nombre de clics était faux, et je crois que ça avait été assez loin et que Google avait dû repayer de l'argent.
Alors sur ces questions des IA, des intelligences artificielles, parce que ça c'est un des sujets super à la mode, y a également l'inverse. Il y a tous ces trucs qui disent on a une super IA qui fonctionne du feu de Dieu, et en fait derrière, on a des gens derrière des claviers. Et c'est vieux comme l'informatique. Moi, il y a des années de ça, j'avais discuté avec un type qui avait connu l'époque du Minitel, et il me disait qu'il avait des potes qui avaient monté des Minitel de rencontre, et il y avait un gros barbu derrière le clavier qui disait « Coucou, je m'appelle Pamela, je suis super chaude, etc. » Et donc, ça a toujours été le cas, quoi.
Donc on fait des bots pour imiter des humains, et on achète des humains pour imiter des IA. Waouh!
Alors, dans le domaine du tout est faux, il y a également ce qu'on appelle le deepfake.
Le deepfake? Le
deepfake.
C'est en anglais, c'est le faux profond.
Le faux profond, effectivement.
Non, c'est pas une deep pic, c'est encore autre chose.
On va pas en parler ce soir. Hein. Aujourd'hui, on a des outils informatiques qui arrivent à faire des photos, notamment de visage. Il y a un site qui fait ça à la demande. On rafraîchit l'image et on a à chaque fois une nouvelle tête. Et qui arrive à faire des photos photoréalistes de visage de gens qui n'existent pas.
Moi, j'ai regardé pendant tout un moment. On ne peut pas savoir si c'est du faux ou du vrai. Il faut regarder les détails pour avoir une idée.
Donc du coup, si on ne se méfie pas, c'est foutu. Parce qu'il faut vraiment se dire, je sais que c'est faux, donc je vais regarder ça avec ça.
Il y a des deepfakes qui mettent en scène Trump ou Obama, où on leur fait dire n'importe quoi.
Oui, puisqu'on peut le faire avec de la vidéo. Alors aujourd'hui, ça demande encore un peu de talent et beaucoup de moyens, parce que ça demande beaucoup de puissance de calcul, mais on sait que dans les années à venir, ça va s'améliorer à très grande vitesse. Et donc, si on peut plus se fier aux images et aux vidéos et ce genre de choses, comment fait-on?
Mais où va-t-on?
Et même le sujet d'actualité qui est le harcèlement sur Internet, c'est du fake aussi?
Alors, effectivement, c'est un des trucs qui date de la semaine dernière. Donc, dans le cadre du procès intenté par Denis Baupin à des médias et à ses accusatrices, Duflo a témoigné. Et dans la foulée de son témoignage, elle a été victime d'une campagne de harcèlement, sur Twitter notamment, avec menaces de viol et des trucs bien dégueux. Et il y a un type qui s'est penché sur la question, je ne connais pas son nom malheureusement, et qui a commencé à analyser tout ça. Et en fait, il s'avère que, selon son travail, c'est toujours le même message, donc manifestement, c'était fait automatiquement, et les comptes sont des comptes achetés. Et donc, ça veut dire qu'il y a quelqu'un, quelque part, qui a mis des sous sur la table pour faire une campagne de harcèlement de Cécile Duflo, sur des bases, où c'est même pas des vrais gens qui la détestent.
Tout le monde est gentil sur Internet, alors?
Bah, ça se trouve, oui, hein.
Il n'y a pas de haine, il n'y a pas d'entourloupe. C'est que des gens sympathiques partout, partout.
Voilà, c'est en fait... c'est
même
fou,
les harceleurs sont faux sur Internet.
Peut-être, voilà.
Oui, parce qu'au final, on ne sait pas. On ne peut pas savoir exactement.
Oui, je pense qu'il y a quand même, malheureusement, c'est une constante de l'humanité, c'est quand même un bon paquet de connards. Mais...
Mais alors, Luc, si tout est faux, toi aussi, t'es faux? Nous aussi, nous sommes faux?
Oui, je pense que tu as mis le doigt dessus. Maintenant que le poteau rose est découvert, nous allons disparaître et nous vaporiser. Et nous reviendrons la semaine prochaine avec une illusion plus convaincante.
Salut.
À la semaine prochaine.